Tous les soirs, sur la pente, une vache restait là, immobile, à regarder. Elle se détachait sur le ciel clair, au-dessus de la ligne d'horizon. Un remblai de terre arraché à la montagne lui faisait comme un socle. Que peut-elle bien regarder, cette vache? Ou à quoi pense-t-elle? Je la vois au même endroit tous les soirs. Et peut-être qu'elle veut se remplir de ces heures-là avec leurs images et leurs bruits pour quand la neige et le froid la tiendront des mois enfermée dans une étable, ou bien pour quand elle sera morte. Peut-être qu'elle attend de voir apparaître le soleil. Regarde, regarde, elle regarde toujours vers où se lève le matin. Cependant, la nuit descendait le long des bois et de la montagne, mais même dans l'obscurité contre le ciel étoilé, la vache restait là, immobile, à regarder. On aurait dit le temps.
C'est une vache qui est passionnante. Quand arrive le printemps, il faut voir si elle est heureuse, hein, si elle commence à sauter, gambader, parce qu'elle sait qu'elle va partir à la montagne. Et quand elle arrive au pied de la montagne, elle est très heureuse tout de suite d'aller rechercher la meilleure herbe, les meilleurs coins et tout. C'est passionnant, hein, de vivre la vie de cette vache. Hein. Elle est passionnante et on la regarde avec passion. Et je dirais qu'on peut tomber amoureux d'une vache. Comme on est tombé amoureux de sa femme, vous voyez, c'est pareil. On tombe sous le charme de cette vache, parce qu'elle a des charmes vraiment extraordinaires. Elle est d'abord sympathique d'approche comme ça. Vous avez vu ce front large, généreux, ses yeux sympathiques là. Et puis c'est une vache au grand cœur. Quand on la voit dans la montagne, c'est une alpiniste émérite, vous voyez. Elle va toujours aller au bout de l'effort.
Sortant d'un refuge de la Goulandière un matin, 4 heures du matin, j'avais plus à dormir, je suis parti. J'ai rejoint le village de Presles pour descendre sur Pont-en-Royans et je me retrouve, il y a, je pense, quelques siècles en arrière avec un déplacement beaucoup plus lent. Ça permet de se retrouver et puis de réfléchir. Un jour, je suis descendu, c'était un 11 novembre, je suis parti de Méaudre et je suis allé jusqu'à Pont-en-Royans par la route et jusqu'à la Balme de Rancurel, j'ai pas vu une voiture par cette route. Et là, justement, eh bien, on prend un autre regard, alors qu'on la prend tous les jours, cette route. Eh bien, à pied, je me suis retrouvé tout seul dans un paysage qu'on ne fait pas attention, on n'a pas le même regard, j'ai pas eu le même regard ce jour-là sur cet environnement. Il y a 50 ans en arrière, par exemple, on parle de la Goulandière, bah, c'est vrai qu'on habitait là-haut et il fallait charrier le charbon de bois, il fallait travailler. c'était un autre rythme de vie et forcément bah, c'était des voies de communication comme nous aujourd'hui on utilise nos routes dans le Vercors.
Quand on descendait, comme à la foire, à la balle, on avait, pour moi, on avait un regard comme une bête, pas sauvage, mais je ne sais pas te dire comment, on avait un regard des yeux, là, on voyait ça comme si on était un peu peureux, d'enfant on était un peu peureux. Quand j'étais dans le bois, je descendais, mettons, comme à la balme, je descendais avec mon père. C'était plutôt pour le travail de mon père. Et moi, j'étais pour dire, lui, il m'emmenait avec lui et moi, je l'accompagnais. Et puis, le plus ce qu'on voyait, que c'était peu de choses. On le regardait avec, en ouvrant des yeux, là, comme si on n'avait jamais rien vu. Une fois, il m'avait dit, je m'en rappellerai toujours, il me dit, demain, une démo à la fire. Et je me rappelle toujours, on est parti comme ça, moi je le suivais, je lui donnais la main par moment, et puis je suis arrivé là-bas à la foire, à la balme, c'était, et je lui dis, toi j'avais pas compris ce qu'il m'avait dit, parce que je lui ai dit après, d'où elle est la fille là? Il m'avait mené à la foire. Mais moi, j'avais pas vu la foire. Voilà. Je n'ai jamais vu quelqu'un. J'ai quitté la montagne, mais quand je suis marié, qu'est-ce que je veux.
Lève-toi !
Après, je venais la trouver en plaine. Alors, à cette époque-là, je n'avais pas de vélo, je n'avais pas les moyens. Alors, j'empruntais un vélo des fois à quelqu'un, ou je me faisais descendre par une occasion, jusqu'à Pont, et je me rappellerai toujours, à Pont, un coup j'étais arrivé là, et bien j'avais emprunté le vélo de Père Brémond, qui avait un porte-bagages comme ça, et ma femme, quand elle me voit arriver avec ce vélo, ce porte-bagages, elle en a été. Pour remonter, alors je remontais en vélo, de là-bas jusqu'à Pont, et puis des fois j'avais une autre occasion qui me reprenait et me montait à la balme, ou je montais à pied, par la route des Gorges, tout le long, oui. Oui. Question de marche, c'était long, mais ça se faisait bien. C'était tout, quand je me rentrais, c'était toujours la nuit, hein, de toute façon.
j'habite en haut et je vais en bas pour travailler. Tous les jours, tous les matins, je prends la voiture et c'est tous les matins la même route et une nouvelle route parce que tous les jours, le ciel change de couleur, les montagnes changent de couleur, les arbres changent de couleur. C'est un moment... C'est agréable. On part, il fait froid et plus on descend et parfois plus il fait chaud, parfois plus il fait froid et... C'est bien la route de montagne, on croise des chamois, on croise un écureuil, c'est toujours une surprise, c'est toujours agréable. Et puis, on n'est pas nombreux, alors parfois on fait plus ou moins attention.
Quand j'étais enfant, prendre sa voiture pour aller à Romans,
c'était quelque chose. Je sais pas où ils vont travailler, les autres, ceux qui montent.
Descendre trois fois par semaine à Saint-Jean, c'était... Alors qu'aujourd'hui, les trois quarts des gens vivant sur
alors quand je les croise, je demande. On se dit bonjour, on se connaît pas, on s'arrête jamais, on s'est jamais parlé. Peut-être que si on tombait en panne,
c'est progressif.
On s'arrêterait, c'est vrai que quand il y en a un en panne,
progressivement, les gens, cette notion de distance disparaît, on prend sa voiture pour faire Saint-Jean. C'est rien du tout, c'est 3 km.
On se dit toujours bonjour et pourtant on se connaît pas.
Plus de notion de distance.
Ça fait longtemps pourtant que je fais le voyage, alors des fois je me dis, ça va être pénible, mais le voyage il change. Bon ben, il y a longtemps, je faisais le voyage toute seule, et puis les enfants ont grandi, je les ai descendus à l'école, et puis après je les ai descendus au collège. Puis des fois, je descendais avec mes petits voisins, parce que moi j'avais plus d'enfants à descendre. On regarde le paysage, on se dit tiens, ce matin il y a les chasseurs. Bonjour les chasseurs, et on les klaxonne, ça nous amuse, ils aiment pas ça, ça leur fait du bruit, mais nous ça nous fait bien rire, là, quand ils sont tous avec leur 4x4 sur le bord de la route. Il y a des matins, on passe, on dit ah, c'est la guerre! Et on passe en baissant la tête, mais on se fout bien, on se fout un petit peu d'eux, quoi. C'est vrai que c'est... Nous, la route, on l'a tous les jours, hein. On l'a quand il fait beau, quand il pleut. Tiens, la neige est tombée. Alors, le jour où la neige est tombée, là, on est content, on est fiers, on descend avec la neige sur la voiture, on arrive à Saint-Jean, tout le monde nous regarde, comme si on arrivait de l'autre planète. Eux, ils ont froid. Nous, on n'a pas froid, nous, on a la neige. On n'a pas froid quand il y a de la neige.
On appelle papa.
On est content qu'il y ait de la neige. On est fiers de la neige.
Ils viennent nous dépanner.
Puis on arrive là, jusqu'à Saint-Jean
sinon,
avec la neige.
Des fois, il y a
la
chasse-neige.
Ils nous regardent tous traverser Saint-Jean. C'est marrant, on dirait qu'on est des héros, comme si on est de Sibérie. Ben non, on vient juste de la montagne. Mais bon, c'est vrai que pour eux, c'est pas leur histoire, la neige. Ils sont trop bas.
Là, des fois on voit des randonneurs qui font barrer en plein cagnard l'été qui arrivent complètement en ruisselant, mais on voit aussi arriver des vrais randonneurs qui font le GR. Alors ils débarquent là sur ce chemin en descente et ils sont complètement, enfin ils paraissent complètement épuisés, transpirants, et là après avoir été quand même longtemps avec le bruit de la rivière nature, là tout d'un coup, pof, on aperçoit un toit, deux toits, enfin c'est... Quand on ne connaît pas, je pense que c'est un peu... C'est comme l'oasis où, après avoir été longtemps en montagne, tout d'un coup, crac, c'est habité, c'est... Ça doit être l'idée de peut-être que, ça y est, on va pouvoir se rafraîchir, trouver une fontaine, boire un coup dans un café, enfin c'est le retour à la... C'est un peu l'image qu'il y a là quand on sort des gorges de la Bourne. Retour à la civilisation, une pause civilisation.
En direction de Léoncelles, je me demandais ce que ça pouvait être. En fait, au-dessus de la route, il y a une petite construction, mais alors toute petite, un petit cabanon avec un four à l'intérieur, et on voit bien que ça a servi. Et je me suis longtemps posé la question. Eh bien, c'est tout simplement l'endroit où les deux facteurs se rejoignaient, échangeaient le courrier. Le premier arrivé préparait le feu. Et c'est là que se faisait l'échange du courrier. Puisqu'il se retrouvait là, hein, s'il y avait le facteur de Saint-Jean, et puis le facteur qui venait de Léoncelle, qui devait faire sa tournée beaucoup plus haut.
La buvette d'Arbois. Ouais, moi je me suis pas trop arrêté souvent pour boire, mais on y a travaillé juste à côté, 100 mètres plus haut, et on y mangeait là à midi, et on était très bien soignés, très bien. C'est une maison en dur, bien bien faite, bien finie. Il y avait une salle à manger pour les passagers, tout ça. Il y avait leur cuisine, il y avait une petite pièce là, et puis ils avaient des chambres au-dessus. C'était bien fini, c'était. Je ne sais pas pourquoi on l'a écroulé, cette maison. Bon, peut-être que c'était abîmé. S'il n'y a plus personne dedans, ça s'abîme, c'est sûr. Et il y avait des gens qui s'arrêtaient. Ouais. Tous ceux qui connaissaient s'arrêtaient. Là, pour un coup, on discutait un coup. Du sud, les gens s'arrêtaient. Pas dire qu'ils faisaient des merveilles, mais ça tournait. Il vivait, bon, lui était cantonnier, hein, de la DDE. Et bon, avec ça, ben, ça leur faisait un petit appoint. Ça. Puis c'était vivant. C'était plutôt les gens du coin, là, de la Balme Trancurelle, même de Villars, ceux qui descendaient, ou ceux de Pont qui montaient, de Chorange, voilà, c'était comment on appelle ça, une pause, enfin, une halte, quoi.
Ça devait être en 32 que j'étais chez Girard, que je te dis, un colporteur, tu sais, qui vendait des bricoles, des petits vêtements, des peignes, des briques, des machins comme ça. Là, je vois toujours ces deux baluchons avec une toile noire ployée là. Je faisais deux baluchons comme ça, ils mettaient ça un devant et derrière. Il y avait des types qui travaillaient avec leurs bêtes, qui charriaient du bois. Ils descendaient du bois au coulon avec leurs chevaux. Ils descendaient du bois, ou alors ils descendaient du foin, ou alors on en rencontrait qui remontaient. C'est plus quand on était jeune.
Des charrettes, hein.
Le transport aussi.
Avec les chevaux, hein. Tu sais que mon beau-père, lui, me disait, il descendait de là-haut, sur Saint-Hilaire, hein, parce que c'était les sinistres au Saint-Hilaire, il n'y avait rien d'autre dans le coin. Hein. Ouais.
À l'époque, tu sais, on se servait des moyens du bord, hein, ce qu'on avait. Hein. Pour faire un parapet, ben, nous, là, on a remonté les poutrelles qui étaient tombées en bas, tu sais, du parapet, qui tenait le parapet, là. On les a remontées avec des échelles d'engin, tu vois, un peu. Une échelle d'engin, tu sais ce que c'est? Ce qui chargeait les sapins sur les camions, ils tournaient, les grumes. On y a fait. Et les anciens ont bien fait les gorges de la Bourne. Hein, ils les ont bien creusés, les tunnels et tout, et la route, et les parapets, ils ont bien fait aussi, ils n'étaient pas bien outillés, ils avaient des pelles et des pioches, et puis des barres à mines et des masses pour faire des trous, faire des mines. Il n'y avait rien d'autre.
Comme le père Carletti, quand il parlait du tunnel qui amène à la centrale de Bourguignon, ben ça va tout être fait. Il n'a jamais remarqué les trous qu'il y a, l'accès, en montant tout le long, là, toutes des fenêtres. Hein. Ouais.
Moi, les vieux, je les admire parce qu'ils ont fait des jolies choses.
On se demande comment ils dépassaient. Tout le long, ils devaient remonter par Bourguignon, de l'autre côté de la Bourne. Hein. Ah, oui, mais alors, il y a des fenêtres qui sont pendues à 50, 60 mètres en-dessus de la rivière pour y accéder, à savoir comment.
On peut dire qu'il y a moins 14 000 ans, les premiers alpins, hein, on s'accorde à dire, et c'est vrai que les hommes ont toujours cherché à monter dès que possible dans les montagnes. On dit souvent qu'ils sont montés pour chasser le bouquetin. Alors c'est une hypothèse, c'est possible pour faire des raids de chasse. Mais il y a d'autres personnes qui pensent, et j'aime bien cela, que les hommes sont montés pour voir loin. Ils sont montés et ça leur permettait de voir beaucoup plus loin et d'avoir une vision sur le monde qui les entourait.
Moi, la montagne...
Non, j'adore la montagne.
C'est plus beau que...
J'adore la plaine, mais j'adore la montagne. Hein.
D'ailleurs, j'aime bien la montagne. Quand je monte à la montagne,
ça change avec la plaine. Moi, je trouve la montagne très belle.
Feuilles mortes.
J'aime la montagne. Grimper, j'aimerais monter plus haut encore.
C'est comme si je rentrais...
J'ai des douleurs et je me calme.
Je sais pas.
Par la force des choses, voilà.
Dans une maison qui
mais
est sans
j'aime bien, j'aime bien aller sur les crêtes.
C'était beau, là.
J'aime bien.
C'est bien. Moi, j'aime bien la montagne. J'aime bien. Bon, en plus, c'est une montagne où il n'y a pas grand monde, mais...
Je suis content.
On se connaît tous. On ne se pose pas de questions.
Je vois toujours des choses qui me...
C'est simple.
Souvenirs.
C'est l'entraide,
moi, je trouve
on
la
a un
montagne,
peu souci de chacun, souci
j'aime
des autres.
J'aimerais
si on peut voyager ensemble, on va voyager ensemble.
Bon, moi, je sais que je préfère la montagne.
On se transporte les gamins, on descend à l'école, on se connaît bien, alors on sait bien
mais
ce que chacun
j'aime bien,
a besoin.
J'aime bien aller
chacun,
sur les crêtes, j'aime bien.
Comment on pourrait agir par rapport aux autres.
Le bruit, il y en a à des endroits tout le temps. Quand on monte par le chemin qui monte à la Goulandière, qui part de la Balme, il arrive à un endroit là-haut qu'ils appelaient à la maison de la Marignatte, qui a toujours les ruines. Et bien quand tu es là, tu entends toujours un bruit. Le bruit de la rivière d'abord, qu'on entend la rivière. Le bruit de... Quand il y a un grand creux comme ça, il y a toujours un bruit, un bourdonnement qu'on entend. Et puis, où elle est placée, cette maison, ben, il fallait avoir envie de rester. Hein. Et qu'il n'y en a pas beaucoup qui la connaissent. Et elle est jolie. Hein. Il y a toujours les murs. Ça me plaît alors. Hein. Ça, c'est curieux. C'est là qu'il y a beaucoup de gens qui devraient apprendre à voir ces ruines-là. Et comment ils vivaient sur ce rocher-là. C'est un rocher, c'est curieux. Hein. Ça, c'est joli. C'est justement c'est là qu'il y a, ce bourdonnement qu'on entend dans la vallée.
Si on entend passer le train à Saint-Hilaire-du-Rosier, Saint-Hilaire-Gare, la cloche de Saint-Hilaire, ça c'est le grand beau temps, la cloche de la Motte, c'est la bise de Grenoble, et puis alors là c'est assez surprenant, lorsque maintenant c'est plus le cas, mais on entendait autrefois, il y a encore une dizaine d'années je crois, la sirène de l'usine de Saint-Martin, et les personnes âgées de Rochechinard n'appelaient pas la sirène d'Auriol, parce qu'on l'entend lorsque c'est le vent du midi, donc c'est cet annonciateur de pluie, donc on l'appelait la parienne, la mauvaise, ce son-là, cette sirène, on l'appelait la parienne, la mauvaise, parce qu'elle annonçait le mauvais temps. Est-ce que tu as entendu la parienne?
c'était le lendemain du jour de l'an 2000, l'année dernière, et je me suis retrouvé sur le haut plateau avec un vent du sud très très fort, des nuages qui passaient rapidement comme dans un clip, les nuages qui passaient au-dessus de ma tête très rapidement, et j'étais tout seul avec un, alors je sais pas, un bruit, je sais pas si c'était le loup ou un chien, mais j'ai ressenti une trouille, le fait de se sentir tout seul sur le haut plateau. Et on parlait des bruits, ben là tous les sens sont en éveil, et puis on va se retrouver vraiment à paniquer même. On se demande un peu ce qu'on fait là tout seul, et où est notre plaisir, hein, entre la peur, la beauté du paysage, et puis se dire pas faire de bêtises, hein, voilà.
Sonnaille, des troupeaux, ça, c'est caractéristique au plateau. S'il y a du vent, tu arrives à les entendre à plusieurs kilomètres, les troupeaux. Tu arrives à savoir comment ils se déplacent, s'il y a tout le troupeau, s'il n'y en a qu'une partie, s'il est à pied ou au pôle. Parce que moi, en fonction des bergers, ils se mettent de telle et telle sonnaille, et tu as le troupeau de Jean-Pierre qui lui va sonner fort parce qu'il aura beaucoup de sonnailles, l'autre il en a peu, ben il sonne moins, ou son troupeau est plus écarté, donc le son est moins centralisé, et puis ils ont tous des à l'intérieur des sonnailles bien propres à eux, un peu comme nous on aurait un klaxon sur une autre voiture, et ça c'est propre au milieu des hauts plateaux. Quand t'as beaucoup de neige poudreuse, ça absorbe tous les bruits. Tu peux crier, on peut être à deux, et distant de 15 mètres, 20 mètres. Ouais, pas plus, hein. 15-20 mètres. Quand t'as beaucoup de la poudreuse qui en a sous les arbres, que ça fait des espèces d'escargots, que ça s'enroule, tu vois, tellement qu'il y en a, eh bien, t'entends plus rien. Hein. Tu peux crier, ça absorbe tous les bruits. Ça fait. Point de vue isolation acoustique, c'est. Et tu gueules tout ce que tu peux, t'entends rien. Là, c'est le grand silence. Hein.